On va commencer une étude sur l'épître de Jacques. On va apprendre dans cette épître, ça va durer plusieurs semaines, mais on va apprendre dans cette épître, c'est à quoi le but, pourquoi que Jacques a écrit aux églises, surtout aux Juifs qui étaient dispersés, puis quelles sont les recommandations que Jacques a enseignées. Parce que dans l'Église du Seigneur était naissante, quand c'est Jacques qui a écrit ces choses, puis elle avait besoin d'être exhortée sur des choses, puis je crois que ces mêmes exhortations-là qui étaient là, données il y a 2000 ans, sont encore 100% d'actualité pour aujourd'hui. On a besoin d'entendre les mêmes paroles qui ont été dites dans Jacques. S'il y en a qui veulent les Jacques dans la semaine, gênez-vous pas, mais on va y aller tranquillement, il n'y a pas de course. On va essayer de sortir tout ce qu'il y a comme connaissance qu'il y a dans cette épître-là.
On sait que Jacques, c'est le
prédicateur. Ah, ça, on va le voir justement ce soir. C'est qui, ce Jacques-là? L'introduction, ce soir, c'est l'introduction de l'épître de Jacques. On va juste voir, nous introduire à comprendre l'épître. Qui est ce Jacques, l'auteur de l'épître? Parce qu'il ne faut pas oublier que dans le Nouveau Testament, on voit trois fois le nom Jacques à trois personnes différentes. C'est les trois personnes qui sont mentionnées dans le Nouveau Testament. Il y avait deux apôtres, tout en partant, il y avait deux qui s'appelaient Jacques. Et on voit ça dans Matthieu, chapitre 10, les versets de 2 à 4, quand Jésus a choisi les 12 apôtres. Là, il dit, voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre, et André, son frère. Il y a Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. Fait qu'il y a un Jacques, là, qui est le frère de l'apôtre Jean. Fait que Jean et Jacques, c'était deux frères, comme Simon puis André, c'était deux frères. Puis on voit dans un autre verset que Jacques et Jean étaient des associés pour la pêche, parce qu'ils étaient des pêcheurs, ils allaient à la pêche. Fait que les deux frères, il y avait deux équipes de deux frères qui étaient même associés pour aller à la pêche, puis ils ont été choisis par Jésus. Puis on voit aussi qu'il y a Jacques, fils de Zébédée, Jean son frère. On voit Philippe, Barthélemy, Thomas, Matthieu, le publicain, Jacques, en parenthèse, le mineur. Parce que Jacques, apparemment que le Jacques, c'était Jacques le majeur, puis il y avait Jacques le mineur, qui était le deuxième des 12 apôtres qui s'appelait Jacques. C'était Jacques le fils d'Alphée. Il y a Thaddée, puis il y a Simon le cananite. Pourquoi qu'on pense que c'est pas un des Jacques qui est d'un 12 apôtres qui aurait écrit ces écrits-là? Parce qu'on voit dans Acte 12 que ça n'a pas été long que l'apôtre Jacques, le frère de Jean, il a été assassiné. Si on voit ça dans Acte 12, 2, ça nous dit qu'il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Fait que ça n'a pas été long dans les Actes des apôtres qu'il y a un des apôtres qui s'est fait assassiner. Puis tout de suite, dans la même période, on voit qu'il avait capturé Pierre, il l'avait mis en prison, puis il voulait assassiner Pierre aussi. Puis c'est là que vous avez sûrement lu l'histoire, qu'un ange du Seigneur est apparu à Pierre, puis il l'a sorti de la prison. Puis quand il est arrivé à la place, au lieu de prière, que tout le monde priait, mais il croyait pas que Pierre était sorti. Il croyait pas qu'il était exaucé. Mais on voit dans ce passage-là quand même que Jacques avait été assassiné, donc ça élimine Jacques le majeur. Puis le deuxième apôtre, Jacques le mineur, qui avait été choisi par Jésus, il est pratiquement inconnu. On voit pas d'écrit qui nous parle qu'il aurait écrit une lettre ici ou là, ou fait quoi que ce soit. Là, on va voir que d'autres indices qu'on va voir un peu plus loin qui nous font voir que ça serait plutôt un autre Jacques qui serait l'auteur de l'épître de Jacques. Parce qu'il y a deux versets en partant qu'on va aller voir. C'est deux versets qui nous parlent que Jésus avait des frères. Est-ce que ça vous étonne de savoir que Jésus avait des frères et des sœurs? Donc, Marie n'a pas resté vierge, comme que l'Église catholique l'enseigne, qu'ils disent que c'est l'Immaculée Conception, là, puis qu'elle a eu Jésus au monde sans coucher avec Joseph, puis ça c'est vrai, puis qu'après elle sera encore vierge, puis elle sera appelée encore la Vierge, puis qu'elle monte au ciel vierge. Mais entre moi et vous, en accouchant d'un bébé, tu peux plus être vierge en partant. Ça, c'est la première des raisons. Puis deuxièmement, on voit des écrits dans le Nouveau Testament qui nous parlent que Jésus avait des frères et des sœurs. Vas-y vite. Matthieu 13, 55, qui nous dit, il nous parle de Jésus. N'est-ce pas le fils du charpentier? En parlant de Jésus, c'était le fils du charpentier. N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? Là, on voit là-dedans que Jésus avait des frères. Et dans l'autre passage, dans Marc 6, 3, n'est-ce pas le charpentier? Parce que Jésus était le fils du charpentier, mais lui-même était aussi le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jose, de Jude et de Simon. Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Oui, ses sœurs. Ça fait qu'il y a plusieurs sœurs.
C'est ça, il y a plusieurs
sœurs. Oui. On voit là-dedans, parce que l'Église catholique essaye de dire, ah, ben ça, c'est à ses cousins. C'est pas nullement ses cousins, c'est ses frères et sœurs. Puis, ils étaient tous fils de Marie et de Joseph. C'est pour ça que là, ce Jacques-là, on voit dans l'histoire, son lit un peu, qu'il n'était pas converti au Seigneur, mais on voit un peu plus loin dans les écrits qu'il serait converti. C'est pour ça qu'on pense que Jacques, le frère du Seigneur, serait l'auteur de l'épître de Jacques. Parce que dans Jacques 1:1, le début de l'épître de Jacques, ça nous dit Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, on voit qu'il s'appelait Jacques. Puis si c'est pas, s'il y en a un qui s'est fait assassiner, puis l'autre on n'entendait pas parler, il restait Jacques, le frère du Seigneur. Mais il y a d'autres indices qu'on va découvrir qui nous démontrent que c'était vraiment Jacques, le frère du Seigneur. Un autre indice qui nous permet de croire que Jacques est le frère du Seigneur, c'est dans l'épître de Jude. L'épître de Jude, ça nous dit, l'épître de Jude, l'introduction, le premier verset, ça dit Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques. Fait que là, on voit là-dedans que Jude était le frère de Jacques. Fait que là, dans les quatre frères de Jésus, dans les deux versets, on voit qu'il y en a un qui s'appelait Jude. Fait que Jacques, qui était vivant, il se trouvait être le frère de Jude. C'était deux frères de Jésus. On voit dans son cheminement qu'il a été lent à accepter son demi-frère comme étant le Christ, parce que c'était son demi-frère. Joseph n'a pas servi pour mettre Jésus au monde, parce que c'est son demi-frère, en principe. Dans Jean 7, le verset 5, ça nous dit, « Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. » Fait que dans le temps de son ministère, ses frères ne croyaient pas en lui. Il s'est passé des événements, puis ils ont même picossé Jésus à certains moments parce qu'ils ne croyaient pas. Puis Marie non plus ne croyait pas, mais elle repassait ces choses dans son cœur. Parce que Marie, elle avait plus de preuves pour croire. Pourquoi? Premièrement, les anges qui ont apparu à Marie pour lui dire... Puis Marie elle-même, elle sait qu'elle n'a pas couché avec Joseph, puis elle tombe enceinte, puis elle a un enfant. Si ça lui donne pas assez de preuves pour croire, je sais pas que ça lui prenait de plus, mais sur le coup, elle a cru. Parce qu'elle a dit à l'ange qu'il me soit fait selon que le Seigneur l'aura décidé, selon sa volonté. Fait qu'elle avait accepté son rôle d'être la mère, la porteuse du Christ, du Messie. Mais elle croyait pas plus que ça, parce qu'elle savait que Jésus était spécial, mais elle n'avait pas vraiment saisi ou s'engager à 100% à vouloir le suivre. Parce que tu peux savoir que Jésus sauve sans le suivre, sans vouloir te donner à lui. J'en connais plein de gens qui croient en Jésus, Mes enfants sont les premiers, ils croient tout en Jésus. Mais de là être prêts à donner leur vie à Jésus, puis de vivre pour Jésus, ça c'est une autre affaire. Ça c'est de voter pour Jésus. On vote, tout le monde est prêt à voter pour Jésus. Mais Jésus veut plus qu'un vote, il veut des disciples. Il veut des gens qui sont prêts à renoncer à eux-mêmes, à prendre leur croix, à suivre Jésus. Amen. C'est ce qu'on a fait, nous autres. On a renoncé, on a dit, on y donne notre vie. On veut le suivre, on veut le servir, on veut vivre pour lui. On est prêt à mourir pour Jésus.
Amen.
Il faut que vous soyez prêts à aller jusqu'à la mort pour Jésus. Il n'est pas question de renier Jésus. Si vous reniez Jésus avant de mourir, là, parce que vous êtes sous la menace, vous venez de tout perdre si vous reniez Jésus. Oui, lui-ci, celui qui me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père. Celui qui me reniera devant les hommes, je le renierai devant mon Père. Fait que Jésus n'a pas besoin juste des votes pour lui. Il a besoin de personnes qui sont prêtes à lui donner sa vie, puis être prêtes à s'engager, à le servir, puis à faire sa volonté. Parce que là, est-ce que Marie était prête? On le voit pas encore qu'elle était prête, mais elle suivait, puis elle... Il y a des moments où elle a posé des questions pertinentes, mais Jésus, quand il y a eu des moments où il y a quelqu'un qui a dit, « Heureuses les mamelles qui t'ont allaité, puis le sein qui t'a porté. » Jésus dit, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu puis qui la mettent en pratique. » Mais à l'autre place, il y en a qui ont dit à Jésus, « Jésus, ta mère et tes frères sont dehors, ils veulent te parler. » Jésus dit, « Qui est ma mère et qui sont mes frères? » Il dit, « C'est ceux qui font la volonté de mon Père. Voilà mon Père, ma mère, mes frères, mes sœurs. C'est ceux qui font la volonté de mon Père. » Fait que ça nous dit pas que Marie suivait. Mais Jésus a confirmé doublement que ses vrais frères et sœurs, c'était ceux qui mettaient en pratique la parole de Dieu, qui étaient prêts à suivre Jésus. Hein?
C'est nous.
Amen. Fait que, mais il se peut que Jacques, selon ce qu'on peut voir dans la parole de Dieu, qui se serait converti tout de suite après la mort de Jésus. Quel est cet indice qu'on a retrouvé? Mais dans 1 Corinthiens 15, le verset 6 à 8, ça nous dit que là, Jésus, après sa mort, il a ressuscité. Lui a commencé à apparaître aux disciples. Là, il dit qu'il est apparu aux 12. Après ça, ça dit qu'il est apparu à plus de 500 frères à la fois. Fait que Jésus nous a donné des preuves qu'il était ressuscité. Il y avait 500 personnes réunies en train de prier, puis Jésus leur a apparu. Où est-ce qu'il pouvait être, ces 500-là? Dans une réunion de prière, probablement en train de prier entre chrétiens. Puis là, ça nous dit que la plupart sont encore vivants au temps des écrits de la lettre des Corinthiens, et dont quelques-uns sont morts. Puis le verset 7, il dit, « Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. » Fait que là, il est apparu à Jacques. Probablement, c'est à Jacques, son frère. Et après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. Là, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il a vu Jésus lui aussi, ressuscité. Ça veut dire que, dans ce passage-là, on voit que Jésus a pris le temps d'apparaître à Jacques pour aller montrer une preuve qu'il était ressuscité. Pourquoi pensez-vous que Jésus a pris le temps d'aller voir son frère Jacques, son petit frère? Hein? Pour y donner des preuves, pour le convertir, parce que on va voir dans d'autres versets que Jacques est devenu un chef spirituel de l'Église de Jérusalem, qui était très haut coté parmi les apôtres, puis il avait de l'autorité. Il a pris Dieu, c'est qu'il le plaçait là en charge. Souvent, on pense que c'est Pierre qui avait le top. C'est vrai que Pierre a eu les clés du royaume, puis il a pu débarrer la porte aux Juifs pour recevoir le Saint-Esprit, aux Samaritains, puis aux païens. Il est allé là, il est le premier à prier pour ces groupes-là, pour que le Saint-Esprit descende. Parce que Jésus, il avait dit, je te donnerai les clés. Parce que, puis là, il a déboré la porte, autrement dit. On voit qu'après la résurrection, Il s'est joint aux disciples pour obtenir le baptême du Saint-Esprit. Si on voit ça dans Actes 1:14, ça nous dit « Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. » Fait qu'on voit que quand il attendait la puissance du Saint-Esprit, quand Jésus dit « Attendez à Jérusalem », puis que d'attendre que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il dit que je vous ai promis. Il dit, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit et de feu. Mais les quatre frères de Jésus étaient là, puis la mère de Jésus était là, puis ils priaient avec les apôtres, puis il y avait environ 120 personnes à prier et à demander le baptême du Saint-Esprit. C'est ce que je vous parlais au début de la réunion tantôt. Demandez-les. Eux autres, ils ont été 10 jours sans arrêt jusqu'à temps qu'ils l'obtiennent. Si vous n'avez pas encore été baptisé du Saint-Esprit ou si ça s'est éteint dans votre vie, demandez-les. Soyez à la recherche. Priez du matin jusqu'au soir jusqu'à temps d'être baptisé. Quand la puissance du Saint-Esprit va tomber sur votre vie, vous allez être rempli puis vous allez vivre des expériences extraordinaires. Il y en a qui parlent en langue, il y en a qui prophétisent, il y en a qui reçoivent des dons comme des dons de guérison, des dons pour faire des miracles, la foi pour transporter des montagnes, des paroles de connaissance, des paroles de sagesse, des prophéties, le discernement des esprits. Il y a plein de dons spirituels que Dieu veut donner. Il faut la rechercher, la puissance de Dieu. Mais dans ce passage-là, on voit que Jacques et Jude, qui sont deux qui ont écrit les épîtres, étaient les frères du Seigneur. Ils étaient avec les apôtres en train de prier pour le demander. Ils étaient là quand ils l'ont reçu. Suite à la mort de Jacques, frère de Jean, Pierre est mis en prison, puis ensuite il était libéré par un ange, puis il s'empressa de l'annoncer à Jacques. Tantôt, j'ai commencé à vous l'expliquer un peu quand ils ont tué Jacques. Après ça, ils ont fait mettre en prison Pierre. Puis là, Dieu a envoyé un ange le sortir de là. Il était exaucé. Il a sorti de là. Puis après ça, il y a une parole que l'apôtre Pierre a mentionnée dans Acte 12, le verset 17. Pierre, leur ayant fait signe de la main de Stère, Là, il leur raconta comment ce que le Seigneur l'avait tiré de la prison, et il dit, annoncez-le à Jacques et aux frères, puis il sortit, puis il s'en alla dans un autre lieu. On voit que Jacques, le frère du Seigneur, avait une importance, le Jacques apôtre, il était mort. Là, c'était l'autre Jacques, le frère du Seigneur, qui était là. Fait qu'il est important pour Pierre, puis Pierre a dit, allez le dire à Jacques. Jacques n'était pas là, c'est important d'aller l'avertir. On voit que l'apôtre Paul nous parle aussi de la visite qu'il a eue avec Jacques, le frère du Seigneur. Si on voit ça dans Galates, le chapitre 1, le verset 18 et 19. Parce que quand Paul il s'est converti, là, il a été à Damas, etc. Puis là, ça nous dit, 3 ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas, qui est Pierre. Et je demeurai 15 jours chez lui. Mais je ne vis aucun des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Fait qu'on voit dans ce passage-là que Jacques, le frère du Seigneur, il était là, parmi les 12, puis qu'il était connu de l'apôtre Paul. Puis c'est drôle de voir comment cela. Mais c'est comme si on aurait dit que c'est des petites cliques. Des petites gangs qui se connaissent, qui sont toujours ensemble, puis tout le monde, t'en connais un, tu les as toutes connus. Mais c'est un peu ça. Jésus a choisi du monde qui se connaissait. Il y a beaucoup de gens, même dans ces 12 apôtres, on voit qu'il y en a 2 qui sont frères, il y en a 2 autres qui sont frères, puis il y en a 2 autres, il y en a un qui c'est le père, puis l'autre c'est le fils, dans les apôtres. Fait qu'on voit que c'est une histoire de famille, puis comme Jean-Baptiste qui était le cousin, si on étudie un peu plus, on peut s'apercevoir que Barnabas était le cousin de Jean surnommé Marc, puis qu'il est apparent apparemment avec Pierre. Fait qu'il y a tout le temps une connexion quelque part, qu'il y en a un qui se convertit, qu'il dit à l'autre se convertit, puis là ça finit que tout le monde quasiment, sont toutes chambres, sont dans la même famille, dans la même gang, ils se connaissent tous. C'est comique. On voit aussi dans un autre passage, un petit peu plus loin, que Jacques, il s'était joint aux apôtres, mais il avait pris des galons. Il avait pris des grades, on pourrait dire. Il était estimé de tous les apôtres qui étaient là. Puis il était considéré par beaucoup comme l'un des conducteurs de l'Église de Jérusalem. Où est-ce qu'on voit ça? On voit ça dans Actes 15, le verset 12 et 13. C'était justement comme ce qu'on appelle le premier concile, une première réunion des apôtres pour décider de problèmes à régler. C'était quoi les problèmes? C'était que les apôtres, les autres, ils étaient juifs. Fait qu'ils suivaient un petit peu la loi juive, entre parenthèses. Même après avoir été converti, il se soumettait encore à la circoncision, puis à des pratiques un peu selon la loi juive. Ça a duré un petit peu avant que ça sorte de leur corps. Puis l'apôtre Paul, lui, évangélisait les païens du monde qui n'étaient pas du tout juifs, qui n'étaient pas circoncis. Puis il y a des gens qui ont commencé à s'astiner avec l'apôtre Paul pour dire qu'il fallait circoncire les nouveaux qui se convertissent. Là, ça a été un débat, ça, là, au début de l'Église. Puis là, ils ont fait un concile, le premier des conciles. C'est une réunion entre apôtres pour décider de débattre de la question. Est-ce qu'on devait circoncire les nouveaux convertis païens? Puis, quels sont les points de la loi qu'on devrait leur imposer aussi? Fait que ça a été un débat. Fait que l'apôtre Paul aurait été à Jérusalem, rencontré les apôtres pour discuter de la question, puis Barnabas était là. Puis là, ils ont débattu, puis là, Paul a raconté tout ce qui se passait dans son ministère, comment est-ce que la puissance de Dieu se manifestait, puis comment est-ce que les miracles, puis tous les signes, les prodiges qui se passaient, que Dieu faisait à travers du ministère de l'apôtre Paul parmi les païens. Fait que là, il racontait ça, puis là, ça dit, toute l'assemblée garda le silence, puis là, on écouta Barnabas et Paul qui racontèrent tous les miracles et les prodiges que Dieu avait fait par eux au milieu des païens. Là, ça nous dit au verset 13, « Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit, « Homme frère, écoutez-moi. » Puis là, il a commencé, là, il a dit, « Le Dieu de nos pères, il s'est révélé, blablabla, bla, bla, bla. Il a continué, puis là, ils ont expliqué. Finalement, pour arriver à la conclusion, Pierre a rajouté que Dieu servait de lui aussi pour parler. Fait que là, on voit que Jacques et Pierre, c'était deux personnes qui parlaient aux autres pour expliquer leur point de vue. Puis souvent, c'était comme si le sujet était clos, une fois qu'ils avaient parlé tous les deux. Bon, donc, on voyait qu'il y avait quand même l'inspiration de Dieu pour être des responsables dans l'Église de Jérusalem. Pardon? Il y avait du discernement, l'inspiration, puis ça donnait des réponses. Puis finalement, pour si vous voulez savoir, ils ont-tu décidé de circoncire les païens? Mais ben, il nous a dit qu'on n'était plus obligés de suivre ces principes-là, parce que les païens étaient sauvés par la foi au même titre que nous, on parle les juifs qui parlaient. Nous aussi, les juifs, on est sauvés par la foi, sans les rites de Moïse, etc. Les seules choses qu'ils ont répétées qu'il fallait mettre en pratique des enseignements ancestrales, de pas manger de sang, de pas manger d'animaux étouffés. Pourquoi? Parce que ça, là, ça vient pas de la loi de Moïse, ça vient du début de la création. Quand Dieu a donné, il a averti de ne pas manger le sang doit retourner à la terre, parce que le sang d'un animal, c'est son âme. Fait qu'il doit retourner à la terre. Puis il a dit aussi de se garder de l'impudicité. L'impudicité, c'est le sexe sans être marié, ou de la prostitution, ou de la pornographie, ou toutes ces dérivés-là de sexualité en dehors du mariage. Puis l'autre affaire aussi, de s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles. C'est quoi ça? C'est que dans ce temps-là, il y avait des temples d'idoles, puis ils offraient de la viande en sacrifice à leur dieu, puis après ça, ils vendaient cette viande-là sur le marché. Pardon? Moins, ben, même si c'était un petit peu moins cher qu'à l'autre. Mais Même si ça aurait été le même prix ou pas cher, ou le bon deal, le deal du siècle d'acheter un bon steak d'un animal qui était sacrifié à un démon, Paul le dit, on touche pas à ça. Les apôtres l'ont dit, les païens doivent pas toucher à ça. Puis encore moins de participer au culte aux idoles. Si tu manges même pas de la viande sacrifiée aux idoles, t'es encore moins de participer à un culte, à une idole. Voyez-vous pourquoi que les chrétiens doivent pas rentrer dans les temples de d'autres religions? Peu importe la religion. Même si c'était la religion de nos pères, même si ça aurait été notre propre religion, quand tu as renoncé à ta religion pour accepter Jésus, pour être sauvé, tu as renié ta religion. Tu as reconnu que ta religion ne servait à rien, tu as accepté Jésus pour être sauvé. On n'a pas à retourner dans nos anciennes religions. Si notre cœur est encore attaché à ces choses-là, faut couper les liens. Pourquoi? Parce que les religions, c'est des cultes à des faux dieux. Il n'y a aucune religion qui est au vrai Dieu. Aucune. Le seul chemin, c'est Jésus qui sauve, puis tu es sa parole qui est le chemin pour être sauvé. Puis c'est ça, la seule religion, c'est de suivre la parole de Dieu. Le reste, ça sert à rien. C'est des cultes aux idoles, à des faux dieux. Prenez par exemple les celles qu'on connaît le plus, là, que ce soit les musulmans qui ont inventé Allah, ils ont renié Jésus comme étant qui n'est pas le Messie, qui n'est pas le Dieu, que Jésus n'est pas Dieu. Donc, automatiquement, Allah n'est pas le vrai Dieu. Parce que dans la Bible, dans le Nouveau Testament, c'est bien écrit, si tu as le Fils, tu as le Père. Si tu n'as pas le Fils, tu n'as pas non plus le Père. Puis d'autres religions, comme le catholicisme, ils parlent de Dieu, mais ils ont introduit dans leur Dieu un autre parti qui forme Dieu, la mère de Dieu, à qui ce que leur culte est offert à Marie, reine du ciel, qui disent qu'elle est co-médiatrice, co-rédemptrice, qu'elle peut te sauver. Ils ont modifié Dieu avec un faux Dieu. C'est un idole. C'est un idole. Puis le premier des 10 commandements, c'est quoi? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Fait que la minute que tu modifies Dieu, ça vient d'être un autre Dieu. Puis le deuxième commandement qui dit, tu te feras pas d'image puis de statue, puis tu te mettras pas à genoux devant ça. Fait que l'Église qu'on connaît, l'Église romaine, ils ont plein de statues, puis d'idoles, puis des crucifix, puis des statues de tous les saints, puis d'autres intermédiaires, à part que Marie, qui ont tous les saints qui ont mis dans le ciel, en tout cas, puis toutes les fausses doctrines. C'est un temple d'idoles, c'est un temple de démons. Les chrétiens n'ont pas d'affaires là. Mais tout ça pour revenir au concile, qui avait dit, touchez pas à ces affaires-là en tant que chrétien. Bon, j'ai sorti un peu du sujet, mais j'aime ça en profiter pour réintroduire ces affaires-là, parce que c'est tellement tentant. Oh, c'est beau, c'est de l'or, des belles images. Tu péris, si tu es en adoration devant un humain, comme le pape, il se met à genoux devant le pape, il embrasse la bague du pape. C'est de l'idolâtrie, la même affaire, que ce soit un objet ou idolâtrer un homme. C'est de l'idolâtrie. Puis il y a même des églises qui idolâtrent leur pasteur, les églises évangéliques. Mais c'est ça qu'il faut faire attention. On est tous des humains. On est tous des frères et sœurs, on est tous égaux, puis sauvés de la même façon. Puis il n'y en a pas un qui doit se mettre à genoux devant un autre humain. Puis même les anges non plus n'ont pas accepté de se faire mettre à genoux. Ils disent, relève-toi, je suis ton compagnon de service et de celui de tes frères. Adore Dieu. Ça dit, mets-toi à genoux devant Dieu, pas devant un ange, ni les humains. Non. On voit que Paul, l'apôtre Paul, il connaissait Jacques, puis il le visitait. Dans Actes 21, verset 17 à 19, ça dit, « Lorsque nous arrivâmes à Jérusalem, les frères nous reçurent avec joie, puis le lendemain, Paul se rendit avec nous chez Jacques, et tous les anciens s'y réunirent. Après les avoir salués, il raconta en détail ce que Dieu avait fait au milieu des païens par son ministère. » Fait qu'on voit que Jacques avait pleinement intégré le groupe des apôtres, puis ils se réunissaient. Puis on voit une autre place dans Galates 2, le verset 11 et 12, que apparemment qu'il que Jacques avait une grande autorité dans l'église de Jérusalem, parce que ça nous dit que lorsque Séphas vint à Antioche, l'apôtre Paul, je ne sais pas si vous savez, vous rappelez de l'événement, parce que l'apôtre Paul il a fait face à l'apôtre Pierre pour lui dire que qu'est-ce qu'il est en train de faire, c'était pas correct, parce que l'apôtre Pierre il amenait des gens à se faire circoncire et à se pratiquer la loi de Moïse. Puis quand il était avec des païens, il vivait en païen. Puis quand il était avec des juifs, il vivait en juif. Puis là, Paul en a profité pour le traiter d'hypocrite. Ça nous dit, quand Séphas vint à Antioche, je lui résistais en face parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il y avait des personnes qui avaient été envoyées par Jacques. Jacques avait comme l'autorité dans l'église de Jérusalem d'envoyer des frères pour leur dire « Allez dans telle ville puis dis tel message. » Fait que là, Séphas y a été. Puis là, on voit que Pierre mangeait avec les païens, puis quand il fut venu, c'est ce qui va, puis se tient à l'écart par crainte des circoncis. Fait que là, il y a une petite pause jusqu'à Pierre, il savait peut-être pas trop comment agir avec les Juifs ou avec les païens, puis il a essayé de se dissimuler. Paul l'a repris, mais le point que je veux parler dans ce point-là, c'est avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques. Jacques était estimé, le frère du Seigneur. Donc, selon les écrits théologiens, cette lettre-là allait s'arrêter. La première écrite du Nouveau Testament, puis ça aurait été écrit dans les années 44, entre 44 et 49 après Jésus-Christ. Fait que Jésus-Christ, apparemment, il sera mort à l'an 33. Fait que là, à 44, ça veut dire c'est 11 ans, 11 à 15 ans, mettons, après que Jésus soit mort, que cette lettre-là a été envoyée. Puis, ça aurait été dans le but d'orienter l'Église naissante, parce qu'on va voir la semaine prochaine que Jacques s'adresse, je l'ai lu tantôt, Jacques, serviteur de Dieu, du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Ça veut dire qu'il avait envoyé sa lettre aux chrétiens qui n'habitaient pas Jérusalem, qui habitaient dans toutes les villes et les villages autour. Fait que la lettre a été envoyée pour tous ceux qui s'étaient convertis, mais qui n'étaient pas proches des apôtres, ceux qui étaient loin. Mais des Juifs. Ça, on va éplucher ça la semaine prochaine, que c'était pour orienter l'Église naissante, parce qu'il y a plusieurs points, c'est comme pour redresser des situations. Puis, c'était justement pour effectuer les premiers redressements, puis encourager devant les difficultés et l'opposition naissante, parce que les premiers chrétiens ont fait face à de la persécution et toutes sortes de problèmes. Fait que c'était l'introduction qu'on voyait ce soir à propos de cette épître. On commencera le reste la semaine prochaine, si Dieu le veut. Prions. Seigneur, je te remercie dans le nom de ton Fils Jésus-Christ pour ces paroles qu'on a vues ce soir. C'est des études, puis ça nous enrichit notre connaissance sur l'épître de Jacques. Merci, Seigneur, de ce que tu t'es révélé. Puis donne-nous, Seigneur, dans la suite de cette étude, d'être bien attentif à toutes les recommandations que tu as faites par ce serviteur. Merci, Seigneur, de ces hommes de Dieu qui ont été là au début de ton Église, puis qui ont écrit ces choses pour nous laisser des lettres pour pouvoir qu'on puisse avoir les enseignements de ta parole. Fait que, Seigneur, on remet toutes ces choses entre tes mains dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.